RCF.
C'est Grand Angle, bonjour, je n'oublie pas ma mémoire, je l'entraîne. C'est le thème de Grand Angle aujourd'hui en partenariat avec Tempo Santé. Alors s'il y a des sportifs de la mémoire, eh bien tout le monde peut s'entraîner. Qu'est-ce qui permet de développer sa mémoire? Comment les enfants peuvent-ils y travailler? Et que faire quand la mémoire vient à flancher? La mémoire et le temps, c'est un sujet passionnant. On va en parler avec mes invités. Sylvia Pinoza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de la revue Tempo Santé qui paraît tous les deux mois, une revue éditée par Bayard et Notre Temps. C'est une émanation de Notre Temps.
Oui, alors ça s'adresse à un public un peu plus jeune que Notre Temps. Donc nous parlons plutôt à des hommes et des femmes de plus de 45 ans. Voilà, sur tous les problèmes de santé et sur la forme, le bien-être et la diététique.
Et la mémoire, on peut, même avant 45 ans, s'en préoccuper. Dans le numéro de la rentrée, ben justement, vous proposez d'entraîner la mémoire avec Sébastien Martinez, qui est champion de France de la mémoire. Michel Mirapons, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes auteur, réalisateur, journaliste. Vous écrivez notamment des documentaires pour la jeunesse. Et le dernier en date, ben ça tombe bien. Le dernier en date, c'est Questions de mémoire, illustré par Edith Caron.
Oui.
Joliment illustré, hein, très beau.
Merci.
Il est sur
la
table du studio. Et paru chez Actes Sud Junior. Jean Maisondieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre des hôpitaux honoraire. Dans une nouvelle édition de votre livre, Le crépuscule de la raison, paru chez Bayard, vous défendez la thèse d'une cause psychologique s'ajoutant aux difficultés physiques dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, si j'ai bien compris.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça, vous nous préciserez ça tout à l'heure. Anne de Pomereux, bonjour. Vous êtes professeur de mémoire, vous accompagnez aussi bien des élèves que des salariés en formation. Non seulement vous dopez la mémoire, mais peut-être aussi l'attention. Vous publiez ces jours-ci, il faudra pas l'oublier, ça sort le 10 octobre dans les librairies, Éloge de la passoire, c'est aux éditions Lattès. Je n'oublie pas ma mémoire, je l'entraîne, c'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Sylvia Pinoza, alors exercer sa mémoire, pourquoi? C'est ma mémoire au top, c'est bien indiqué sur la couverture de Tempo Santé. Comment vous est venue l'idée de ce sujet?
Alors nous voulions parler de la mémoire un petit peu autrement, qui ne soit pas uniquement autour de pathologies qui effraient, mais plutôt de façon positive, en promettant, entre guillemets, un peu à tout le monde, si, avec quelques efforts, de pouvoir doper cette mémoire et d'en profiter un maximum pour sa vie quotidienne, sa vie intérieure et sa vie culturelle.
Alors vous donnez des pistes, hein. Je soigne mon attention, j'écoute mes sensations, je m'appuie sur mon imagination. On va voir que ça regroupe beaucoup d'idées des ouvrages que j'ai déjà pu citer et des invités qui sont ici autour de la table. C'est plus qu'un amusement, on voit bien qu'il y a un enjeu autour de la mémoire.
Oui, bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose qui perd dans la mémoire, avoir des absences, des trous de mémoire, c'est quelque chose qui effraie aujourd'hui, surtout quand on a un certain âge, on a un petit peu en regard ces maladies qui font peur, Alzheimer, etc. Donc nous avons voulu le présenter de façon ludique et positive, avec des exercices assez amusants pour ne plus rien oublier, ou presque.
Je mémorise un numéro de téléphone, c'est encore utile aujourd'hui?
Ben oui, c'est déjà parce que notre téléphone, il peut tomber, comme le mien hier, qui s'est cassé en mille morceaux. Aïe. Et que je ne peux plus accéder à mes contacts.
Heureusement qu'il n'y avait pas l'agenda.
Donc j'étais contente d'avoir quelques numéros de téléphone. Et alors, ce dont j'ai repéré, c'est pour parler un petit peu quelque chose de personnel, c'est que les numéros dont je me souviens, c'est les numéros que j'ai appris les plus anciens, ceux de mes vieux amis, de mes parents.
Ceux qui n'ont pas changé, qui sont encore à 8 chiffres.
Exactement.
Il y a des techniques, vous précisez aussi, mais on va y revenir, hein, forcément. Il y a des techniques, prendre des notes peut-être, répéter des choses à voix haute.
Prendre des notes, par exemple, quand on lit un roman, c'est une des choses assez classiques. On lit un roman et puis une semaine après, où on ne se souvient plus du tout. Donc prendre des notes sur ce qu'on a lu, voilà. Ou aussi noter mentalement, hein, quand on... quand on gare sa voiture dans un parking, noter mentalement les, la place de parking en l'enrichissant de son expérience.
Voilà, on n'est pas obligé de sortir son téléphone pour faire la photo, mais faire une photo mentale peut-être.
Voilà, c'est plus intéressant, plus ludique. Et puis justement, les associations que l'on peut faire entre des chiffres, des lettres, en puisant un petit peu dans son histoire personnelle, peut être tout aussi intéressante.
On verra un petit peu les différentes techniques, Anne de Pomereux. Alors, plus que jamais, à vous lire, plus que jamais, il faut utiliser sa mémoire. Moi, je pensais qu'avec le secours des ordinateurs et de toute notre technologie moderne, on n'avait plus besoin de retenir des choses.
Ouais, c'est précisément un peu un piège, les mémoires externes. Ouais. C'est à force de tout déposer à l'extérieur de soi, c'est comme si on perdait un peu le mode d'emploi de notre mémoire. Or, la mémoire humaine est capable d'enregistrer énormément d'informations, à deux conditions, savoir comment faire et le faire. C'est-à-dire que si on s'entraîne plus jamais à retenir des numéros de téléphone, on va avoir de plus en plus de mal à le faire. Donc mon enjeu, moi, c'est de redonner aux personnes que j'enseigne là-dessus le pouvoir sur leur mémoire. Et en fait, ce qui m'intéresse, en plus du côté pratique, c'est l'enjeu, parce que à force de tout mettre à l'extérieur de soi, en fait, on est très démuni, on est très faible et très angoissé de plus savoir se servir de sa mémoire.
Parce que la mémoire, elle marche. Par exemple, le numéro de carte bleue, tout le monde arrive à le retenir.
Le numéro de code, oui.
Oui, le code. Les 13 chiffres.
Ce qui est utile, le code, c'est facile, mais les 13 chiffres, c'est très pratique. Vous êtes n'importe où, vous pouvez commander un billet de train sans avoir à sortir votre carte bleue, hyper pratique.
Numéro de sécurité sociale.
Enfin, c'est le côté pratique, ça. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a des enjeux qui vont beaucoup plus loin que ce côté pratique.
Alors, on va y venir. Vous allez nous expliquer. Je reviens simplement sur le titre de votre livre avec une belle couverture. Éloge de la passoire. Alors, la passoire, c'est celle qui ne retient rien.
Alors, précisément, la passoire, elle fait le tri. Ah. Elle retient quoi? Elle retient ce qui est bon et ce qui va nourrir, et elle évacue le reste. Et une bonne mémoire, c'est une mémoire qui sait oublier les choses superflues. Et donc, c'est un discernement à opérer. Un étudiant qui a une mémoire beaucoup plus fiable qu'une personne de 60 ans, il est capable de tout ingurgiter d'un coup. Mais c'est pas intéressant parce que il aura en lui un magma de connaissances non hiérarchisées, non triées, donc assez inexploitables, et qu'il va oublier extrêmement vite. Je le vois tous les jours quand je vois des jeunes qui arrivent chez moi et qui ont passé
48 heures avant l'oral.
Ils le savent très bien juste avant le DST ou l'examen, et puis ils oublient. 24 heures après, on commence à oublier, et une semaine après, il en reste 10%. Mmh. Et donc, vous avez des gosses qui sortent de 18 ans ou 15 ans d'école et qui savent peu de choses parce que, en fait, ils ont pas, enfin, on leur a pas dit ce qu'il fallait garder. Il n'y a pas eu de transmission de culture, en fait.
Mmh. Mais d'où l'importance de la passoire. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'à l'école, il y a des choses qu'on peut oublier, mais c'est un peu vrai, quand même.
Non, mais bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut oublier, heureusement. Mais tout l'enjeu, si on veut retenir à long terme, c'est d'évacuer les 80% qui sont pas très importants et d'ancrer très, très, très fortement les 20% utiles qui vont permettre, par association, de récupérer ces 80% sans effort. Donc ça, c'est une mémoire intéressante.
Comment on fait ce tri?
Eh ben, c'est le discernement, justement. C'est ce qu'on n'apprend pas tellement à l'école, hélas. On dit toujours aux élèves, apprenez vos cours par cœur, mais on leur dit pas comment. Et donc le tri se fait avec, c'est justement le...
On entasse, quoi.
L'intelligence, c'est de savoir se débarrasser du superflu. Et de retenir l'essentiel. Donc ça se travaille.
Ça veut dire que de temps en temps, il faut s'écarter un petit peu de ce qu'on apprend, et puis de dire, bon, ça c'est d'un autre ordre.
Il faut s'écarter, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier la connaissance. Et s'approprier la connaissance, ça passe par, bon, qu'est-ce qui est important dans ce cours? Qu'est-ce que ça me dit? Où est le point essentiel? Où sont les points de passage? Où est le détail? Où est l'anecdote? Vous voyez? Et en se posant ce genre de questions, alors forcément, on va faire un tri. Et c'est ça qui va rester après.
Michel Miraponce, on parlait un petit peu de l'école.
Oui.
Vous êtes intéressé au public, aux jeunes, puisque vous écrivez des documentaires, vous réalisez des documentaires pour la jeunesse. Vous nous disiez juste avant le début de l'émission que, eh bien, entre les jeunes qui ont pas mal de mémoire disponible et le poulpe, il y a un lien. Expliquez-moi.
Il y a un lien dans le sens que les céphalopodes en général, c'est-à-dire les seiches, les poulpes, les calmars, toute cette classe d'animaux, ont un cerveau extrêmement développé et ils sont capables de choses vraiment extraordinaires. Bon, Voilà. Donc, comme
ça,
nous.
Vous savez, parce que vous travaillez sur différents sujets scientifiques oui. et ça a pu vous retenir.
J'ai fait, il y a quelques temps, des recherches sur ce que font les animaux de façon extraordinaire. Enfin, pour nous humains, qu'est-ce qu'ils font qu'on n'aurait pas, par exemple, ou qu'on ne sait pas. Et effectivement, j'ai été vraiment bluffée par les chercheurs que j'ai rencontrés qui travaillaient sur ces animaux. Ça m'a complètement... ils sont capables, par exemple, c'est très connu, mais quand même, d'ouvrir un bocal avec un couvercle à vis, qui n'existe pas dans la nature, et au bout de... assez vite, ils vont savoir l'ouvrir avec un de leurs bras et prendre le crabe qui est à l'intérieur pour se nourrir. Bon, etc.
Alors,
ils sont capables d'être apprivoisés.
Des enfants, elle est aussi extraordinaire.
Donc nous, on est un petit peu pareil dans le sens qu'on a un grand cerveau. L'évolution de l'humain a fait qu'on a choisi, entre guillemets, d'avoir un cerveau très développé. Et la mémoire, effectivement, réside dans le cerveau. Voilà. Donc j'explique tout ça aux enfants parce que c'est pas évident. C'est quoi là? C'est quoi un souvenir? Où ça se trouve?
De quand on a des souvenirs?
Oui, exactement. Voilà. Donc les enfants sont particuliers parce que ils ont des capacités extraordinaires pour emmagasiner plein d'infos, mais sur un certain type de mémoire. La mémoire, disons perceptive, par exemple. Le bébé, il va savoir avec ses sensations, ses yeux, etc. Il va être en alerte sur tout ce qui est sensation, voilà. Et ça va nourrir sa façon de survivre, tout bêtement. C'est ça. Elle est là pour ça, la mémoire, je trouve, pour survivre.
Pour s'adapter.
Voilà, pour s'adapter. Par contre, la mémoire qu'on appelle épisodique, la mémoire de nos souvenirs personnels, elle va se faire petit à petit, évidemment, on peut le comprendre. Et la mémoire aussi à court terme de retenir les calculs mentaux, etc. aussi, c'est assez lent, quoi. Les tout petits enfants savent pas retenir 9 chiffres d'affilée, par exemple. Ça se fait petit à petit.
Ça fait beaucoup. Bah. Est-ce que ça veut dire aussi, mais que contrairement à ce que nous disait Anne de Pomereux pour les adultes, les enfants, eux, n'utilisent pas la passoire?
Bien sûr que si.
Si, quand même.
Ah, mais si, c'est une fonction du cerveau, malgré nous, je dirais. Et ce que j'ai appris, c'est que cette fonction passoire, je trouve que c'est super l'idée, l'image, ça se fait pendant le sommeil.
D'accord.
Et donc, le cerveau trie et juge qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Comment il va le juger? Je reviens à cette idée de parce que il y a des choses qui vont être utiles pour sa survie, entre guillemets, mais comment il va peut-être mieux réussir, et c'est extraordinaire. C'est donc le sommeil, les enfants, c'est très important de bien dormir parce que c'est là où beaucoup, pas tout,
se fait le travail.
Se fait le travail du tri, oui. C'est extraordinaire, tout seul.
Jean Maisondieu, tout ce que nous disons depuis tout à l'heure doit faire écho à votre travail de psychiatre.
Oui, on peut le dire, ça me laisse rêveur et j'ai surtout peur, malgré mon nom, de devoir être un peu l'avocat du diable. Et surtout pour les personnes âgées qui cherchent une chose, c'est l'oubli. Elles le cherchent quand vous dites que le sommeil est important, c'est vrai qu'il s'y passe beaucoup de choses, mais on triche avec sa mémoire. Et nous avons tous une envie supérieure de garder nos bons souvenirs et de faire disparaître le plus possible les mauvais souvenirs. Or, en vieillissant, d'une part, les gens vous aiment pas parce que vous êtes vieux et que vous rappelez la mort. Parce que, évidemment, dans notre civilisation d'aujourd'hui, c'est les vieux qui meurent. Donc, on vous aime pas vraiment. Et en même temps, vous êtes dans cette situation où vous aimeriez bien communiquer. Il vous manque des partenaires de votre âge parce que vous pouvez pas dire, tu te souviens quand on conduisait des deux chevaux, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une espèce de limitation des contacts avec ça, qui s'améliore avec l'apparition des petits-enfants qui apprennent l'informatique à leurs grands-parents. Ça, c'est par rapport à l'utilisation des outils, c'est important. Mais il y a aussi, et moi je crois le plus important, c'est cette façon que Freud est à l'index actuellement, mais c'est pas grave, Freud avait quand même bien démontré que nous savons tripoter notre mémoire pour nous construire une histoire qui nous arrange.
Or, quand vous voulez dire qu'inconsciemment, on fait un tri très subjectif.
Et oui, inconsciemment, pas complètement. Quand vous avez des idées noires, les gens viennent vous dire, surtout essaye de pas y penser, tu vas pas penser tout le temps à ça. Or, l'effort de penser à ne pas penser vous oblige à penser à ce à quoi vous ne devez pas penser.
Donc, on en finit
pour
plus.
Les neurones, c'est quand même pas bon. Et on a alors la grande folie du siècle, c'est ce slogan qu'on entend partout, nous voulons vivre vieux et vieillir jeune. Rester jeune, enfin, comment peut-on vouloir avoir un autre âge que le sien puisque c'est pas tenable ?
Bien sûr.
Donc on est dans l'aliénation. Enfin, je voudrais
ça veut dire qu'avec l'âge, la mémoire est plus une mémoire, j'ai envie de dire patrimoniale, enfin de souvenirs qui nous ont fait vivre et qu'on voudrait un petit peu enjoliver.
Non, enfin, enjoliver pour ce qui est enjolivable. Mais il y a aussi quelque chose de plus embêtant, c'est que même les bons souvenirs peuvent être douloureux. Dans la mesure, ils vont rappeler que c'est du temps révolu.
Que c'est du passé.
Et c'est cette volonté d'effacer la mémoire, où l'approche des personnes âgées qui ont des troubles majeurs de la mémoire doit être extraordinairement respectueuse de leur désir d'oublier et aussi de leur désir de rester en contact avec les autres. Mmh. Et c'est pour ça que la description honteuse de l'Alzheimer uniquement comme une maladie du cerveau, alors que quand vous rencontrez quelqu'un qui perd la mémoire, enfin qui est présumé alzheimérien, vous êtes horrifié.
Ça fait peur.
Ouais, mais lui, il ressent que vous êtes horrifié. Et il n'a pas envie de vous horrifier. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se tait. Et vous allez le stimuler, puisqu'il faut qu'il ait une bonne mémoire. Enfin, il y a tous ces exercices. Et moyennant quoi, si on ne contourne pas cette difficulté qui est réelle, si on oublie que c'est un être humain, si on oublie que même si les gens n'ont plus les mots pour le dire, ils continuent à penser, ce que vous disiez sur le bébé, c'est pas du tout que ce soit retombé en enfance, hein, mais c'est,
bien sûr.
On a des contournements de mots beaucoup trop durs, quelquefois, comme s'il y avait une hypersensibilité aux mots, qu'on va pouvoir retrouver en travaillant de côté. C'est pour ça que, par exemple, des activités artistiques, si on se garde bien de les interpréter, mais si l'art thérapeute joue, guillemets, à l'art avec le patient, à partir de ce moment-là, se dégage un espace de parole, ou en tout cas de compréhension. Parce que dans la mémoire, faut pas oublier qu'il faut garder la mémoire des mots. Mmh. Et si j'ai plus les mots, comment puis-je m'exprimer ?
Enfin, quand vous lisez, trouver un autre langage.
Voilà. Mais il y a quand même cette horreur pour les gens, les familiers en particulier, le nombre de gens qui font des témoignages de leur accompagnement en tant qu'aidant. Mmh. Mais avec inversement, ils ne se rendent pas compte qu'en épinglant l'autre,
il renvoie une image.
Et surtout, on le renvoie à l'état de choses. Mmh. Il cesse d'être humain. C'est toute la difficulté du témoignage.
Mmh. L'image du sportif peut correspondre, peut-être. C'est-à-dire que par un problème du cerveau, on perd l'agilité. Il faut donc contourner.
Alors, moi, je mettrais deux choses. Il y a la réalité. Mmh. Il est clair quand même que l'organisme, en vieillissant, devient moins performant pour beaucoup de choses. On voit bien sur le plan purement physique. Mais il y a la deuxième difficulté, c'est la dimension affective de la mémoire. Et c'est celle-là qu'en réduisant tout à des problèmes de cerveau malade, on oublie l'autre côté qui est affectif.
Et qui a une force.
Ah ben oui, et puis qui est de toute façon l'essentiel de nos relations, qui est dans les sentiments. Mmh. La mémoire est aux ordres du cœur, et elle en suit les intermittences. C'est Deleuze qui dit ça.
Et en plus, c'est joliment dit. Anne de Pomereux, ça veut dire aussi que cet entraînement, il est possible. Enfin, on peut simplement rendre hommage à Charles Aznavour, qui chantait encore ses chansons comme ça, sans avoir besoin qu'on l'aide dans la mémoire. C'est peut-être un entraînement qu'il faut prendre dès maintenant. Enfin, on va pas faire du préventif, mais parce que c'est utile dès maintenant.
Non, mais c'est utile et utile, nécessaire, important, amusant. Enfin, ça a beaucoup plus de vertus que juste l'utilité, en fait. Pour l'utilité, il y a pas mieux que les machines. Si c'est que être utile, les machines font le boulot. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Hein. Et puis, comme le disait Sylvia. C'est se rapprocher de sa vie intérieure. Entre chercher un poème sur le web et le connaître par cœur, c'est pas la même chose, en fait. Hein. Le rapport à soi-même, il est complètement différent.
Il y a une forme de réalisation personnelle dans un exercice de mémoire.
Réalisation personnelle, est-ce que c'est le mot ? En tout cas, il y a une forme de vie. plutôt de vie. Vraiment, on se sent vivre. Mmh. Et donc, on est plus vivant, on a une meilleure estime de soi, et on est mieux avec soi-même et avec les autres. Donc, voilà, c'est ça qui est en jeu.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ses saxos, ses clarinettes, il me tournait la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
On l'aura reconnu, c'était facile. J'ai la mémoire qui flanche. Jeanne Moreau, 1963. Je n'oublie pas, justement, ma mémoire. On en parle avec Sylvia Pinoza, Michel Miraponce, Anne de Pomereux et Jean Maisondieu.
Grand angle, Christophe Hénin.
Alors, je sais pas, on peut, Michel Miraponce, vous avez peut-être répondu aux enfants à cette question simplement toute bête. Oui, mais lui, il a de la mémoire, moi j'en ai pas. Est-ce que la mémoire, elle est innée ou acquise, pour employer des mots très pour faire une classification, Michel Miraponce? Vous avez enquêté, mais vous avez pas forcément la réponse sur ce...
Pas sur ça, non, je sais pas. Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent, hein, innées... Peut-être madame
Anne de Pomereux, oui, la réponse. Vous en souvenez, allez-y.
En fait, il y a la mémoire, c'est comme tous les attributs physiques, elle est inégalement répartie et distribuée sur les êtres humains.
Donc c'est pas de ma faute, j'ai pas de mémoire.
Il y en a qui ont de la mémoire, il y en a qui en ont moins. Ça, c'est la mémoire naturelle. Et d'ailleurs, dans chaque mémoire naturelle, on peut avoir des très bonnes capacités de retenir les paroles des chansons et puis être nul pour se souvenir des noms et visages des gens. Et puis il y en a qui sont très bons pour les chiffres. Enfin, vous voyez, donc elle est non seulement inégale sur chacun, et puis à l'intérieur de chacun, sur certains sujets on est bon, sur d'autres on est moins bon. C'est la mémoire naturelle. Bon, ça c'est le cadeau de naissance, si je puis dire. Après, il y a ce qu'on en fait, et ça, ce qu'on appelle la mémoire artificielle. La mémoire artificielle, c'est développer ses capacités à partir de ce qu'on a, d'accord. Et ça, tout le monde est capable de développer ses capacités, quel que soit le niveau de départ. Et ça, il faut
on peut toujours progresser.
De la méthode et de l'entraînement, tout simple. Et puis, il y a la mémoire externe. Voilà, les trois mémoires. Naturelle, artificielle, externe. Mmh.
D'ailleurs, j'ai été Michel étonnée de constater que, par exemple, les chauffeurs de taxi, on a fait des expériences, on a regardé leur cerveau, et en fait, un chauffeur débutant, ils ont quand même plein de rues à apprendre. Bah oui, à intégrer, hein. Un chauffeur débutant a un hippocampe, c'est-à-dire c'est une petite partie qui est très importante dans le cerveau, qui a une grosse importance dans la mémoire. Un hippocampe, deux hippocampes en fait, puisqu'on en a un dans chaque hémisphère, plus petit que ceux qui ont 20 ans de métier. Donc c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez, ça s'apprend et c'est des capacités qui se développent.
Jean Maisondieu, explication.
Ajouter quelque chose à cette belle expérience, c'est que c'était avec les chauffeurs de taxi londoniens pour lesquels le trajet était, enfin, retenir tous les trajets plus les variantes, et on les a comparés aux chauffeurs de bus qui eux n'avaient que des trajets réguliers, et l'augmentation n'était pas présente, pas de la même façon. En
c'était
tout cas.
Avant GPS tout ça.
Oui,
hein.
Oui, bien sûr.
Ah, on va voir ce que ça donc va. Donc on s'en remet aux machines maintenant.
Bien sûr.
Non, ils
maintenant,
pourront les utiliser pour autre chose. Mais il y a aussi ce qu'il faut voir, c'est que dans l'acquisition de la mémoire, il y a les conditions sociales dans lesquelles vous pouvez vivre. Et on sait que les intellectuels sont relativement moins menacés d'Alzheimer que les autres parce qu'ils ont une réserve neuronale et une plasticité cérébrale beaucoup plus marquée parce que justement ils ont eu le temps de s'occuper de leur mémoire. Mais quand vous courez après quelque chose pour gagner votre vie, ça devient beaucoup plus problématique.
Sylvia Pinoza, vous sentez que ça c'est une question de vos lecteurs. Comment utiliser ma mémoire? Est-ce que je m'en remets aux machines, pour dire vite, au téléphone portable et autres?
Surtout, on est parti aussi d'un constat quand on a fait le dossier, c'est qu'on s'imagine pas qu'on peut entretenir sa mémoire comme on entretient sa forme, sa musculature. Et d'autant plus aujourd'hui qu'on se dit, ben voilà, on va aller sur Internet et on va tout trouver. Donc c'était aussi l'idée que finalement, la mémoire, c'est aussi un muscle. Mm-hmm. Et que c'était pas... non, mais c'est une façon de parler.
Non, mais pour le psychiatre, c'est un peu difficile.
Non, je voulais dire que ça s'entraîne.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, mais justement, ça renvoie à matérialiser la mémoire. Ça renvoie à matérialiser la mémoire, en faire un objet... Alors c'est quelque chose de fluide, c'est aérien, c'est quelque chose qui va de droite à de gauche, il y a une mémoire sociale, quand on se rend compte c'est quand même tu te souviens, il y en a un qui se souvient, l'autre qui se souvient pas, mais c'est dans l'échange, c'est la rencontre avec l'autre, et la perte de la mémoire c'est justement la perte de la possibilité de la rencontre avec l'autre, ou c'est l'inverse, c'est l'absence de rencontre avec l'autre qui va nuire à la mémoire. Et c'est tout ce travail. C'est pour ça que tout ce qui est dans la... Mais c'est là, alors là, je vais me faire assassiner, mais tout ce qui est dans le développement personnel et tous ces trucs-là, aujourd'hui, c'est pour nous éviter de penser pour nous-mêmes. L'entraînement permanent à faire du sport, à courir dans la rue, en prenant sa tension, etc., c'est pour vous empêcher de penser. Mais ça vous fait acheter...
Alors, libérons la pensée. Ça veut dire... Ça.
Moi, je suis un petit peu d'accord avec vous. Mon enquête m'a montré, enfin en tout cas les chercheurs que j'ai interviewés m'ont dit aussi, enfin, ce n'est pas un muscle, la mémoire n'est pas du
d'accord,
tout un muscle.
On ne l'exerce pas comme un muscle.
Mais non, pas du tout. Et les c'est exercices... très extrêmement complexe. Ça fait appel aux émotions, à un tas
on
de choses chimiques aussi, etc. Et donc...
À la
voilà,
fatigue,
pour,
au stress.
En fait, pour pas la perdre, d'après ce que j'ai un petit peu lu à droite à gauche, c'est que simplement quand on est un petit peu plus âgé, etc., on peut continuer à lire, à penser, comme dit monsieur, mais complètement, surtout à réfléchir, et à avoir des liens sociaux. Quoi.
Est-ce qu'on peut aller jusque dire
beaucoup de liens sociaux, de peindre ensemble, de jouer,
de partager
avec ses petits enfants. Et ça, c'est ça qui entretient la mémoire. Mais il n'y a pas d'exercice comme on fait du foot ou je sais pas quoi.
Ouais. Enfin, le meilleur entraînement.
On ne fait pas marcher sa mémoire simplement pour la faire marcher.
Mais non.
Il faut qu'elle soit
utile. Le meilleur entraînement, la meilleure arme anti-vieillissement pour la mémoire, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire, on sort de soi, on s'intéresse aux autres, on s'intéresse à la nouveauté, on se laisse bousculer, on s'intéresse aux petits-enfants.
Et on note, j'ai presque envie de dire mentalement, que c'est beau.
Mais oui,
par
et
exemple.
En fait, une peut-être meilleure image que le muscle, c'est l'itinéraire, en fait. Une mémorisation, c'est toujours un chemin, en fait. Il y a toujours quelque chose de géographique avec la mémoire. Et d'ailleurs, pour accrocher les souvenirs, il faut les accrocher à des lieux, comme par hasard. Et puis, un souvenir qui est marquant, c'est un souvenir qui est creusé, donc qui est repassé, en fait. Où la nuit... On se remémore et à chaque fois, ça creuse son sillon et le souvenir est plus fort.
En fait, c'est parce que c'est un réseau,
de
neurones. Mmh. Un souvenir, c'est un réseau de neurones. Et plus on l'active, plus le sillon se creuse,
exactement.
Plus ce réseau de neurones va être présent, etc. Et comme un chemin de forêt qu'on emprunte beaucoup ou qu'on n'emprunte pas. Voilà.
Est-ce que ça veut dire peut-être qu'avec l'âge, on emprunte ce chemin de forêt sans faire attention et qu'on a tellement d'habitude qu'on ne se le mémorise plus vraiment?
Non, il y a
c'est
deux
pas vraiment
choses,
ça.
Parce qu'il y a la mémoire automatique, c'est-à-dire quand vous conduisez votre voiture...
On n'est pas toujours en train de réfléchir à quelle vitesse
Non, mais en plus, la conduite est complètement non mémorisée. vous la faites très bien. Et si vous essayez d'expliquer ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans le mur.
Ouais.
Il faut que ça soit complètement automatisé et inconscient.
Ce qu'on appelle la mémoire procédurale.
Voilà, c'est la mémoire procédurale. Mais vous avez, je pensais aux œnologues en vous écoutant, quand ils veulent se souvenir d'un vin, d'une cuvée, etc., c'est des souvenirs de géographie, d'odeur, de choses comme ça qui vont leur permettre de retrouver, enfin on va retrouver Proust, on va retrouver des idées comme ça, qui est de retrouver des sensations, des émotions. Et alors, ce qu'il
faut garder dans la vieillesse, ça reste.
C'est justement d'avoir des itinéraires de promenade. Et puis, on a un avantage sur les jeunes, c'est qu'on a accumulé beaucoup plus de souvenirs.
Et de repères.
De choses dont on peut se souvenir. Mais voilà, c'est comment vais-je gérer mes souvenirs? Est-ce que je me suis menti toute ma vie sur mes capacités? Ou est-ce qu'au contraire, je fais une épreuve de vérité et j'accepte que la vieillesse n'est qu'une période de la vie, la dernière d'accord, mais c'est une période de la vie qui apporte beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes. Mais bon, c'est pas les mêmes.
Dans ce que vous dites, Jean-Maison-Dieu, j'ai envie de revenir, Sylvia Pinoza, sur cette dimension de relation. Finalement, la vie relationnelle, d'une certaine manière, entretient la mémoire dans le dialogue, dans l'échange, dans la discussion.
Ben oui, c'est un petit peu ce que tout le monde, enfin ce que vous venez de dire, c'est que la mémoire, elle est aussi le contact. Le contact à l'autre et le contact à sa propre mémoire aussi. Donc voilà, c'est en cela que je disais que c'est ça s'entraîner. C'est-à-dire qu'il fallait pas oublier les associations, que ça fait partie de son vécu. C'est-à-dire de rendre dans la mémoire, il faut rendre vivant tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes, c'est aller chercher à la fois à se souvenir par une caresse, aller se souvenir par le... par les itinéraires en forêt ou alors les senteurs, le vent sur sa peau. Enfin, c'est la mémoire, elle est multiple dans sa sensorialité.
Cette mémoire, alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Anne de Pomereux, on y revient parce que ça me tracasse.
Oui.
Vous avez dit qu'on pouvait, bien sûr, utiliser le GPS, c'était quand même plus pratique que d'apprendre la carte par cœur. Est-ce que du coup, ça rend de la mémoire disponible pour autre chose ou c'est peut-être un exercice perdu?
Je pense que c'est plutôt un exercice perdu, en fait. Ouais. Qu'importe ce qu'on mémorise, ce qui compte, c'est de mémoriser.
D'accord, voilà. Donc on peut l'utiliser pour autre chose.
Oui. Oui, mais à condition de faire quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire, ça ne se fait pas tout seul.
D'accord, on ne va pas apprendre simplement pour le plaisir d'apprendre.
Ben si, bien sûr.
On peut aussi.
Ah, alors on peut aussi. Oui, là, tout un chapitre sur les comédiens, les acteurs qui apprennent des tirades, des textes d'une longueur extraordinaire.
Le plus long, c'était Le Soulier de Satin, 12 heures sur scène, 500 pages à apprendre par cœur. Comment ils font? Question. Et comment ils faisaient autrefois? Parce que, en fait, on est biaisé. Je pense qu'on a, on regarde toute cette affaire de mémoire avec nos yeux, qui sont de la tradition écrite. Faut pas oublier qu'on vient de la tradition orale et que ça fait bien longtemps, enfin, elle a duré très très longtemps, cette tradition orale. Et donc, pratiquement, jusque l'imprimerie, même après, parce que l'imprimerie, il y a eu du temps avant que ça se diffuse partout, la culture se transmettait essentiellement de façon orale. Hein, et donc, elle était dans des mémoires d'hommes. Donc, il fallait la conserver. Alors, tout le monde ne la conservait pas de la même manière. Il y avait ceux qui savaient. Et dans les peuples de tradition orale, ça existe encore. Hein. Il y a les hommes de mémoire, en général, ils sont un peu à part. Hein. Et c'est très important que ce savoir soit préservé et qu'il y ait une sorte de magie autour. Hein. Et ensuite, il y a une initiation pour transmettre aux générations futures. Et donc, il y a beaucoup de relations. Hein. La mémoire ne se fait pas sans relation. De celui qui sait à celui qui apprend.
Donc, l'importance de cette transmission.
Mais ça s'est très bien transmis pendant des milliers d'années, il me semble, enfin. Vous voyez, je veux dire.
Donc, on peut utiliser l'imprimerie pour en savoir un peu plus encore, mais pourquoi pas encore utiliser la mémoire simplement?
Mais bien sûr.
Orale.
Et les grands-mères ont beaucoup à apprendre aux petits-enfants, en fait, hein. Ne serait-ce que de leur, la vie et
ce qu'elles ont vécu.
Et le rôle des grands-mères, c'est de raconter, en fait, de maintenir cette mémoire familiale.
D'ailleurs, l'enfant, Michel Mirapons, vous pouvez confirmer, l'enfant a besoin qu'on lui répète pour que ça lui rentre vraiment dans la mémoire, non?
Oui, tout à fait.
Vas-y, mamie, raconte encore.
Oui. Il adore la répétition.
Bien sûr, oui.
Pas de problème.
Il n'y a pas que l'enfant, je pense. Hein. C'est une bonne manière de retenir justement la répétition. Si on va juste au début des moyens mnémotechniques, il y a c'est peut-être pour ça que vous parliez de muscles tout à l'heure. Enfin, il y a, oui, la répétition, simplement. Hein. Répéter, répéter, et répéter en comprenant, c'est encore mieux. Une leçon, par exemple, le soir, on se la relit, mais en comprenant, pas de façon automatique, parce que là, ça marchera pas du tout, quoi.
Ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on a l'impression que les enfants, nos enfants, sont parfois contraints de répéter comme... Des moulins à paroles, une poésie, une table de multiplication. Bon, ça a beaucoup changé peut-être, j'en sais rien. Mais...
En tout cas, ce qu'on dit, Didier Sandre a appris son texte pour Le soulier de satin, 500 pages.
Les 500 pages.
Il a très vite compris qu'il fallait passer par la compréhension et que c'était l'essentiel du boulot. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle dans le théâtre, ça va paraître un peu bizarre, mais dans tout effort de mémorisation en fait, on mémorise pas directement la chose. On va mémoriser l'hameçon qui va nous permettre de retrouver la chose. Voilà. Et ça marche aussi pour le théâtre, de façon assez paradoxale.
Et même la place sur le plateau de la scène.
Et puis de comprendre le rôle. Avant tout, de comprendre le rôle. Qui est le personnage? Quelle est la situation? Pourquoi il parle? Et en fait, par exemple, Fabrice Lucchini, qui s'amuse beaucoup sur scène avec La Fontaine, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit dans le langage moderne les fables. Et c'est ça qui est drôle. Et c'est comme ça qu'en fait...
Il faut bien les connaître.
Mais c'est comme ça qu'on les apprend, en fait. C'est en passant par ce détour de la traduction avec mes mots, ma compréhension, dans une situation actuelle, que petit à petit, je vais remplacer mes mots par les mots de l'auteur. Et c'est comme ça que les pièces et les rôles rentrent dans la mémoire des acteurs, des comédiens. C'est assez contre-intuitif, et c'est pas ce qu'on demande à faire aux enfants.
Non,
mais on leur apprend pas à apprendre.
On leur dit
ça que. Je pense que c'est ça que tout le monde, tous autour de cette table, on a vécu. Quoi. On demande, voilà, pour le lendemain ou pendant trois jours, vous apprenez telle leçon, même telle leçon d'histoire. Mais c'est même pas des fois des poésies, c'est des leçons d'histoire ou de SVT à apprendre par cœur. Enfin.
Donc on ferait mieux de commencer par fermer le livre et dire qu'est-ce qu'il y a dans le texte.
Il faut comprendre déjà pourquoi telle leçon, elle vous explique ça et ça. Déjà, ça va aider, je pense.
Ah là là, la mémoire, on en parle après la musique.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatal
On a reconnu Barbara Streisand interprétant Memory. Je n'oublie pas ma mémoire. On en parle sur RCF avec Sylvia Pinoza, Michel Mira-Ponce, Anne de Pomereux et Jean Maisondieu.
Grand angle, Christophe Hénin.
On a parlé de ce rôle de la mémoire qui peut être très très divers finalement, et aussi un peu des technologies qui viennent concurrencer la mémoire. En même temps, Anne de Pomereux, dans votre livre, vous expliquez bien que la première chose à faire, c'est déjà d'être attentif.
L'attention, c'est la porte d'entrée. Sans attention, ça va être compliqué parce que c'est pour mémoriser, il y a toujours trois étapes. J'encode ou j'enregistre, je stocke et je récupère. Alors, pour pouvoir encoder, il faut bien être attentif. Et pour être attentif, ça, on repart sur les perceptions. Si vous vous souvenez pas du nom de la personne qui est en face de vous, c'est probablement que vous n'avez pas été tellement attentif quand il vous a donné son nom. Voilà. Alors, ça passe l'attention par les sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Et puis, ça passe aussi... Enfin, l'attention est très bousculée aujourd'hui, en fait. Elle est extrêmement malmenée. Donc, ceux qui maîtrisent leur attention, ils ont vraiment...
Une petite longueur d'avance.
Une sacrée longueur d'avance, Oui.
Si on reprend votre image, j'encode, je stocke et je récupère. Jean Maisondieu, ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, pour peu qu'on en sache, c'est la difficulté de récupérer.
Oui, d'aller chercher, manquer d'indices. Pour pouvoir, ce que vous disiez sur les acteurs qui vont chercher des indices, dans l'Alzheimer, c'est ça qui est le plus difficile. Et puis, il y a la mémoire immédiate aussi. J'encode pas facilement, etc. Donc, les différents niveaux peuvent être atteints. Parce que là encore, c'est toute la difficulté de savoir ce qui, dans l'Alzheimer, relève réellement d'atteintes organiques sur lesquelles vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant qu'il n'y aura pas de traitement pour le faire, et il n'y en a pas,
malheureusement,
ça ne marchera pas. Et il y a tout le reste qui est le regard que je porte sur moi vieillissant, qui va bientôt mourir, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça m'amène à modifier ma vision du monde et la vision des autres sur moi. C'est toute cette problématique-là.
Alors, vous parlez de modifier. Michel Mirapons, vous nous disiez pendant qu'on écoutait la chanson que la mémoire, elle n'est pas toujours fiable. Pire que ça, elle nous manipule peut-être un peu.
Bon, il ne faut pas exagérer dans le sens que quand la mémoire, globalement, elle est fiable.
Oui.
Voilà, il faut quand même le dire.
Elle est fiable, mais subjective.
Après, elle invente des petites choses, quoi. Des choses
quand
qui
ça l'arrangent.
Voilà.
Quand ça nous arrange.
Voilà. Alors, il y a une. Je peux vous raconter une expérience qu'on a faite avec des gens. Il y a 15 mots qui ont rapport avec l'idée de Sucori qui est lue à un groupe de personnes.
Ouais.
Caramel, sucette, friandise, dragée, nougat, enfin, bon, voilà. Quelques instants plus tard, les personnes ont une minute pour se rappeler et écrire le plus de mots possible de la liste qui vient d'être dite oralement, simplement. On demande ensuite qui a trouvé le mot sucrerie. Une grande partie va lever la main et pensera très sincèrement que ce mot était bien dans la liste, or elle n'y était pas.
C'est une
expérience toute simple qu'on peut faire avec d'autres, avec 15 mots sur un autre champ lexical, et vous verrez que ça marche. Et les gens sont vraiment convaincus qu'il y avait sucrerie. Ce qui est logique, dans le fond.
Alors, c'est une forme d'association.
Oui, voilà. Donc, c'est assez normal. Mais bon, ça, c'est une petite expérience. Mais rapportée à d'autres choses, par exemple, dans des procès, etc., où on croit avoir vu, je sais pas. Enfin, donc, voilà. Il faut faire, un petit peu attention à nos souvenirs qui sont des fois un peu flous avec le temps. Parce qu'on superpose des souvenirs qui sont un petit peu les mêmes. Et ce trajet en train qu'on a l'habitude de faire, il y a une fois, il y avait le contrôleur qui était pull rouge, l'autre fois, je sais pas quoi. Mais donc, tout ça, ça va être un espèce de petit magma. C'est pas très important de savoir quelle était la couleur.
On reconstitue, finalement.
Oui, ou finalement, on arrange, quoi. Mmh. Voilà.
Sylvia Pinoza, effectivement, dans votre enquête, vous avez senti ça? Enfin, dans le, ce que propose votre champion de France de la mémoire, je retrouve plus son nom.
Sébastien Martinez.
Voilà, Sébastien Martinez. Il y a un concours de mémoire, justement, dans cette précision notamment très utile quand on veut participer à des jeux, je veux dire télévisés.
Championnat de mémoire, en fait, c'est des épreuves qui se jouent en temps limité.
Du type de l'expérience?
Non, pas du tout, justement. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, par exemple, il y a 200 noms et prénoms avec des photos, et en une demi-heure, il doit retenir les 200 noms et prénoms. Il y a une épreuve assez impressionnante, 4500 nombres binaires, donc des suites de 1 à 0, aléatoires, à retenir en 3/4 d'heure. Des jeux de cartes. Le champion du monde de jeux de cartes s'appelle Ben Pridmore, il est anglais. Il a réussi l'exploit de retenir en une heure 36 jeux de cartes de 52 de cartes mélangées, donc l'ordre des cartes des 36 jeux de cartes. Bon, c'est une forme d'exploit, mais dans tout, il y a un truc en fait. Le truc, c'est quoi? C'est un procédé mnémotechnique, donc qui est mis au point et extrêmement travaillé par les concurrents, et un entraînement acharné, parce que la mémoire n'est pas faite pour ça en fait. Notre mémoire passoire, elle n'est pas faite pour retenir 4500 nombres binaires. Et tant mieux, je veux dire.
Oui, c'est pas très utile.
On
n'est
pas dans une mémoire au quotidien qui va nous aider à vivre, à faire
nos courses. Ils s'entraînent énormément, ces personnes-là s'entraînent énormément.
Ils s'entraînent.
C'est très loin des mois.
Oui, c'est très loin de notre utilisation quotidienne de la mémoire.
Mais ça prouve simplement qu'une mémoire humaine est capable de faire ça. Et donc c'est ça qu'on va accrocher, en fait.
C'est cette
capacité. Comment ils font? Si lui, il est capable, alors qu'ils ont des mémoires normales. En capacité naturelle, ce que je disais tout à l'heure, les champions de mémoire, ils n'ont pas des surcapacités. Ils ont des mémoires normales.
Très mieux d'apprendre les fables de La Fontaine.
Ils sont bien entraînés. Et puis, écoutez, c'est pas plus absurde que de courir 42 km.
Ah, peut-être. Alors là, on va pas rentrer sur le débat. Je sens qu'il y a beaucoup de sportifs autour de la table. Voilà. Simplement, Sylvia Pinoza, dans les conseils de Sébastien Martinez, il dit « J'appuie sur mon imagination ».
Bien sûr.
Oui, parce que l'imagination va être une aide très importante pour mémoriser. C'est-à-dire qu'on va faire des associations d'idées. On va, par exemple, pour retenir un numéro de téléphone, s'associer à des éléments précis de sa vie. Je sais pas, ça peut être un département où on a sa résidence secondaire, ça peut être la date de naissance de ses enfants, et ou alors ça peut être plus largement imaginer une scénette un peu incongrue, totalement ludique, enfin dans un esprit ludique qui va nous aider à encoder plus
à mémoriser l'information.
Vous savez d'où vient cette technique? Elle vient de l'Antiquité grecque. Donc le traité à Hérénius, qui date il y a très 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 longtemps, qui a été mise par écrit, mais qui a été transmise par oral pendant des siècles. Et en fait, dans l'imagination, il y a le mot « image ». Et tout le ressort de la mémoire s'appuie sur ça. C'est-à-dire qu'on va transformer l'information en une image. Une image mentale, c'est une image qu'on va se créer de la chose qu'on veut retenir en l'imaginant, c'est-à-dire en la voyant et en la mettant en scène. Donc en fait, une liste de mots, c'est plus une liste de mots sur une feuille, ce sont des mots qui jaillissent de la feuille, qui prennent vie par notre imaginaire, qui sont mis en scène et ensuite qu'on va accrocher à des lieux parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir les récupérer.
Et ça retrouve presque du sens. Quoi.
Voilà, c'est pas nouveau, ça date il y a 2500 ans. Ils appelaient ça, les Grecs, des cases et des images. Et pour se souvenir, il faut mettre des images dans des cases et suivant l'ordre des cases, donc les lieux, on va se souvenir des images.
Ça veut dire que vous utilisez le terme de se souvenir, je trouve. Oui. On parle de la mémoire depuis le début de l'émission. C'est intéressant, le souvenir, c'est se souvenir des belles choses. Voilà, un très beau film. Il y a quelque chose, cette fois-ci, de beaucoup plus personnel, peut-être, où on accepte d'avoir simplement son propre regard sur un événement.
Alors, il faut savoir qu'un souvenir, c'est toujours une reconstruction. Et plus on se souvient, plus on le reconstruit, le souvenir. Donc, entre l'événement initial et le souvenir qu'on peut en avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans après, il va forcément y avoir un décalage. Pour preuve, souvenez-vous d'un événement que vous avez partagé avec d'autres personnes dans votre famille, ne serait-ce que votre mariage ou la naissance de vos enfants ou je ne sais quel événement. Et puis, comparez votre récit, votre souvenir, votre trace X années après et vous serez bien surpris de la différence qu'il y a. Mais c'est normal, cette différence, elle est absolument normale, puisque à chaque remémoration, le souvenir se reconstruit autrement, en fait.
Michel Mirapons, pour les enfants, c'est surprenant, cette histoire de souvenir qui évolue dans le temps.
Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous parlez de la mémoire qu'on appelle épisodique, c'est-à-dire que c'est la mémoire de ses propres souvenirs, son histoire, d'où on vient, ses parents, voilà, ou même le mariage de sa sœur, enfin, je sais pas, enfin, sa mémoire personnelle. Elle arrive un petit peu tard, elle se constitue vraiment complètement à l'adolescence ou même un petit peu plus. Donc ils ont une mémoire épisodique encore très très jeune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas de souvenir de cet ordre avant au mieux 3 ans, mais la plupart du temps c'est 6 ans quoi. Donc c'est bien pour ça, quoi. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant de leur faire palper, de les initier à ça. C'est-à-dire que voilà, un souvenir comme ça, c'est fait de sensations, de de son, de d'odeur, de goût, de quelqu'un, de on a gagné ce jour-là au tennis. Voilà, et c'est tout un ensemble. Et mmh. c'est tout ça qui est interconnecté, mais dans le cerveau. Hein. Une fois de plus, là, c'est vraiment des histoires de cerveau.
Est-ce qu'on transmet sa mémoire? Est-ce que, je veux dire par là, un enfant va recevoir la mémoire de ses parents et finit par intégrer dans ses propres souvenirs quelque chose qu'on lui a transmis ou à travers une photo? Je prends mon cas personnel, j'ai dit, il y a une photo, je me souviens d'une photo de quand je suis gamin et je ne sais plus si c'est moi qui m'en souviens ou si c'est la photo qui me
Bien
raconte
sûr.
Quelque chose.
Mais c'est-à-dire que c'est les souvenirs sont faits aussi de ce qu'on vous en a raconté.
C'est les récits.
C'est-à-dire vous avez votre propre souvenir peut-être de cette photo, mais en fait bien souvent c'est les parents qui l'ont commenté, c'est les grands-parents ou c'est ce que même on en a redit ou etc. Et donc le souvenir ça fait partie de la reconstruction dont parlait madame. C'est-à-dire il est reconstruit parce que à chaque fois que on le met en scène, qu'on s'en souvient, même qu'on en rêve à la limite aussi, et ben il change à chaque fois un petit peu. Voilà. Mmh. Donc c'est ce que les autres vous en disent complètement.
Qu'est-ce qu'on fait, Jean Maisondieu, pour entretenir sa mémoire? Il faut garder des photos, regarder des photos, il faut écrire, il faut apprendre,
il faut
nommer les choses.
Il faut tout ça.
Bon, alors ça va, j'ai tout bon.
Et oui, bien sûr. Et il faut savoir aussi qu'on arrive avec une mémoire tout autour de nous. Dès qu'on vous regarde, on dit qu'il est mignon, qu'il ressemble à son grand-père. Ah ben non, il ressemble. Et on va engrammer tout ça. Alors ce sur quoi je voulais insister, c'est sur cette histoire de mémoire qui change. Nous voulons tous avoir une mémoire fidèle. Au départ, enfin, quand on est arrivé, ma mémoire doit être
mémoire.
Fidèle. Mais cette mémoire fidèle doit me renvoyer de moi une belle image. Miroir, joli miroir, etc. Dis-moi, bon. Et toi, tu me renvoies des images que je ne veux pas, je refoule. Je n'existe pas, ça n'existe pas. Puis quand je m'aperçois que je ne me souviens pas, je dis que j'ai une mauvaise mémoire. Mais j'oublie que je lui ai dit mémoire, mémoire, ne reviens pas en mémoire. Je mets mes souvenirs. Mais parce que de temps en temps, ils réapparaissent, j'essaye de les refouler. Et quand elle devient, à force de faire ces exercices, quand elle devient si mauvaise, on va dire, c'est une mémoire pathologique. Mmh. Et on va s'appuyer sur le fait qu'effectivement, il y a des possibilités que ce soit pathologique. On sait tous très bien qu'un cerveau lésé, les circuits de mémoire lésés, ça vous abîme la mémoire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est important, c'est... Dans tout ce qu'on dit, c'est cette complexité et cette importance de la relation à l'autre, au passé et aux mots, au discours sur la mémoire. Puisque on va dire, par exemple, l'Alzheimer, c'est une construction, pour une part, une construction sociale. Mmh. Même si les neurologues ont horreur qu'on dise ça. Mmh. Mais c'est forcément, puisque c'est le langage qui a le dernier mot sur les sciences.
Il ne faut pas l'oublier. Le langage, c'est justement cette part importante de mise en mémoire, Anne de Pomereux.
Eh ben, sans les mots, il n'y a pas de mémoire. Hein. Et l'amnésie infantile, donc l'incapacité des petits-enfants à se souvenir, est aussi liée à l'absence de langage.
Ils n'ont pas un registre, c'est là.
Ben, non, ils ne peuvent pas mettre des objets dans la conscience tant qu'ils n'ont pas les mots. Mmh. Et il faut d'abord les mots, et ensuite, on peut transformer ces mots en images et on peut les mettre dans la conscience. Vous voyez. Mmh. Donc oui, les mots sont essentiels, bien sûr.
Il nous reste une minute. À chacun, est-ce qu'il y a un souvenir qui justement vous a fait vraiment réfléchir à cette mémoire en disant « Ah, j'ai bonne mémoire » ou « Ah tiens, j'avais oublié ça ». Est-ce qu'il y a des situations où vous vous retrouvez comme ça très personnellement? Je vois que vous avez tous oublié. C'est difficile de faire le tri. Jean Maisondieu ?
Non, je pense pas que j'ai des choses très particulières. Moi, la personne qui m'a le plus impressionné, c'est une démente qui se reconnaissait pas. Et là, j'ai réalisé qu'elle le faisait exprès. Enfin, exprès, entre guillemets, parce que l'exprès, c'est « je ne veux pas me reconnaître dans ce que je suis devenu ». Pour moi, ça a changé mon regard sur elle. Mmh. Et elle, du coup, aussi.
Moi, d'autres remarques ?
J'avais une grand-mère qui me racontait toujours le même souvenir, où j'étais Pinoza. Avec ma sœur. Et cette histoire, je l'ai jamais vécue. Nous l'avons jamais vécue. Et honnêtement, ce souvenir-là, pour moi, il est très réel, même si on l'a jamais vécu, parce que pour elle, ça symbolisait quelque chose de notre enfance à nous, avec elle. Et c'est un faux souvenir qui était plus vrai que vrai.
Un faux souvenir à garder précisément.
Dernière, oui, petite anecdote.
Très rapidement.
Une très vieille amie qui est décédée à 106 ans, qui avait donc perdu la tête, qui était démente, pas Alzheimer, mais enfin vraiment. comme on dit, sans mémoire. Elle se souvenait, elle chantait à tue-tête, à la fin de sa vie, à 106 ans, une chanson grivoise qu'elle avait apprise.
Ce que vous racontez dans votre livre. Michel Mirapons, vous passez à côté parce qu'on va devoir rendre l'antenne, simplement. Pour prolonger l'émission Question de mémoire, c'est votre livre, Michel Mirapons,
oui,
paru chez Actes Sud Junior. Il faut vraiment le lire avec ses enfants et s'en souvenir. Le Crépuscule de la raison, le livre de Jean Maisondieu chez Bayard. Éloge de la passoire, le livre d'Anne de Pomereux chez Lattès, à partir du 10 octobre dans toutes les bonnes librairies. N'oubliez pas d'aller le chercher. Vous pouvez aussi lire Tempo Santé tous les deux mois. Merci à Pierre Samanos qui était à la régie. Merci à Marie-Noël Bertrand qui m'a aidé à préparer cette émission. Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour se souvenir d'un grand de la chanson française. On s'en souvient, Jacques Brel.